les podcasts de Radio Vatican.
Deux ans jour pour jour après la COP21, Paris accueille de nouveau ce mardi 12 décembre 2017 un sommet consacré à la lutte contre le réchauffement climatique. Un sommet proposé par le président français Emmanuel Macron après le retrait des États-Unis de l'accord de Paris et qui est centré sur le financement de la transition écologique. Co-organisée par les Nations Unies et la Banque mondiale, cette rencontre doit rassembler une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement, mais aussi des maires des grandes villes et des responsables de provinces et régions. L'enjeu majeur est d'inciter acteurs privés comme publics à orienter leurs capitaux pour mieux lutter contre les effets du réchauffement. Olivier Bonnel a interrogé l'une des participantes à ce One Planet Summit, Géraldine Hang, analyste à l'OCDE sur les politiques de soutien à la finance et à l'investissement vert.
La bonne nouvelle, c'est que depuis la signature de l'accord de Paris à la COP21 en décembre 2015, on a vu vraiment énormément de progrès sur la mobilisation des investissements privés, mais aussi publics, pour faciliter la transition vers une économie à bas carbone. Quelle est l'échelle des investissements dont on parle? Un rapport de l'OCDE à la présidence allemande du G20 en mai 2017 nous explique qu'à peu près 6 300 milliards de dollars devront être investis annuellement, en moyenne, dans les infrastructures entre 2016 et aujourd'hui, et 2030 pour répondre aux besoins en développement dans le monde, sans compter les besoins en changement climatique. Et on a besoin, en plus de ces 6 300 milliards de dollars, de seulement 600 milliards de dollars annuels supplémentaires chaque année pour s'assurer que ces investissements sont compatibles avec le changement climatique. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas à court de financement dans les marchés de capitaux. Donc, par exemple, les fonds de pension et compagnies d'assurance de l'OCDE à eux seuls détiennent, pour vous donner une estimation récente de l'OCDE, 56 000 milliards de dollars rien que dans les fonds de pension et les compagnies d'assurance de l'OCDE. La mauvaise nouvelle, c'est que aujourd'hui, ces investisseurs institutionnels investissent moins de 1% de leur portefeuille dans les infrastructures et une part encore plus faible dans les infrastructures vertes.
Mais selon vous, quelle doit être la priorité pour tous les acteurs qui sont réunis à Paris, les États, les instances régulatrices?
La priorité est double au niveau du rôle des régulateurs, des gouvernements, des organisations internationales et des banques de développement. La première, c'est sur la demande. Comment aider les pays à améliorer leur cadre régulatoire pour les rendre plus attirants afin de créer des réseaux de projets rentables dans les énergies renouvelables, dans l'efficacité énergétique, dans les véhicules électriques et d'autres infrastructures vertes afin d'accélérer les opportunités d'investissement. Donc ça, c'est sur le côté de la demande. Et sur le côté de l'offre, en termes d'offres, il y a un énorme travail à faire pour encourager les investisseurs privés et en particulier les investisseurs institutionnels tels que les fonds de pension, les compagnies d'assurance, mais aussi les sociétés de gestion qui gèrent l'investissement institutionnel, à prendre en compte les risques climatiques. C'est-à-dire que dans la gouvernance, dans la stratégie et dans le management des portefeuilles institutionnels, la prise en compte des risques climatiques et la prise en compte des risques plus long terme des stratégies d'investissement est indispensable pour permettre de débloquer l'investissement institutionnel dans les infrastructures vertes. Et c'est vrai que là, on parle vraiment de milliers de milliards de dollars et l'argent est disponible. Les marchés de capitaux ont largement assez d'argent.
Il y a quelques mois, les États-Unis et Donald Trump ont décidé de quitter l'accord de Paris. Est-ce que cet électrochoc a eu un impact sur la volonté d'investir encore plus dans la transition écologique? Est-ce que vous avez senti des choses frémir malgré le retrait des États-Unis? Est-ce que finalement, ce retrait est un mal pour un bien?
Alors peut-être trois éléments optimistes qu'on a observés depuis le mois de mai. Le premier, c'est évidemment l'importance des acteurs locaux tels que les villes. Le deuxième élément, c'est le rôle critique des investisseurs privés. Donc que ce soit un fonds de pension, société de gestion, compagnie d'assurance, banque, etc., on a vraiment assisté depuis un an et depuis la COP21 à une mobilisation sans précédent des investisseurs privés. Pour finir, c'est que l'Union européenne est en train de prendre un rôle très intéressant sur la transformation du système financier européen en alignement avec les objectifs liés à l'accord de Paris et les objectifs plus larges de développement durable, avec la création d'un groupe de travail sur la finance durable au sein de l'Union européenne pour regarder vraiment comment les régulations financières, la responsabilité fiduciaire des investisseurs, les standards, etc., etc., comment tout le système financier, les acteurs financiers peuvent participer à la transition écologique et durable.
On a souvent une vision assez noire, assez catastrophiste. On pointe souvent le manque de volonté politique, etc. Vous entendez, il y a quand même beaucoup de signaux qui sont optimistes.
C'est une réponse mixte, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on voit beaucoup de signaux positifs de la part du secteur privé et de la part évidemment aussi des gouvernements. Par exemple, la France, avec l'article 173 sur le reporting des risques climatiques pour les investisseurs institutionnels, était vraiment une innovation. Évidemment, beaucoup plus reste à faire pour que les États, non seulement mettent en place leur commitment dans le cadre de l'accord de Paris, mais aussi pour augmenter leur ambition pour arriver à limiter l'augmentation de la température moyenne globale à moins de 2 degrés d'ici la fin du siècle.
Un entretien réalisé par Olivier Bonnel.